Donc c'est pour ça que j'ai invité Aït Al-Mourabit, qui nous vient de GIF, sur Yvette, qui est directeur de recherche, et qui est en plein dans ce domaine depuis pas mal de temps. Et j'avais notamment été très intéressé par une revue qu'il avait écrite dans, rappelle-moi,
Natural Product Report.
Et voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente donc cet aspect de synthèse bio-inspirée. Merci.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais profondément remercier le professeur Marc Fontecave de me faire participer à ce cours. Pour moi, quel honneur de venir dans cet endroit prestigieux. Je suis vraiment très, très content. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Donc, comme l'a dit donc Marc, je vais intervenir sur une partie biomimétique. La synthèse biomimétique de produits naturels. Je vais essayer d'être un peu plus général que ça et d'essayer de montrer en quoi la recherche de substances naturelles, la caractérisation structurale, la recherche de leurs fonctions peut parfois aider, voire inspirer à des processus de la nature, à les comprendre et par la suite à les valoriser, à les utiliser pour les valoriser en chimie pharmaceutique, en synthèse de matériaux peut-être. Donc je vais me focaliser sur un point très particulier qui nous intéresse et qui nous préoccupe actuellement beaucoup au laboratoire. Ce sont des recherches pour un certain nombre d'entre elles très très récentes. Et je commencerai ce séminaire par un petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu comment ça a commencé dans ce domaine-là, de la synthèse biomimétique, c'est-à-dire fabriquer des molécules naturelles en s'inspirant des voies biosynthétiques qui ne sont parfois même pas connues. On est obligé de les postuler dans un premier temps et d'essayer de faire. Et vous verrez que dans beaucoup de cas, c'est un va-et-vient entre la synthèse organique, c'est-à-dire l'étude de la réactivité moléculaire, et les connaissance progressante de la biosynthèse d'une molécule dans le temps. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, voire plus. Et il y a une évolution entre l'étude de la réactivité chimique et de la biosynthèse. Et les deux se complètent très bien. Donc nous, au laboratoire, on s'intéresse beaucoup aux produits d'origine marine, particulièrement les éponges. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais c'est, si je vais un peu dans les généralités sur la chimie biomimétique, on sait que la nature enchaîne un certain nombre de réactions, par dizaines, voire par centaines, qui sont toutes en équilibre, régulées, pour faire un produit à des fins bien précises. Pas tout le temps, il y a des fois où il y a des produits qui, pour l'instant, pour lesquels on ne connaît pas de fonction, qu'on peut dire ils servent à rien, mais la plupart du temps, les processus chimiques sont contrôlés, et la catalyse et mène souvent à un produit désiré pour une fonction donnée. C'est-à-dire vous avez un signal au départ, vous avez la fabrication d'un produit et vous avez l'impact du produit sur un processus biologique. Donc ça, c'est la première partie. Donc un certain nombre de réactions qui sont pour un chimiste ou pour un biochimiste un challenge pour les comprendre d'abord, comprendre comment ils fonctionnent dans la nature, mais aussi leur donner un sens à quoi on peut les utiliser. Donc on peut s'intéresser à une action précise qui peut être une réaction chimique, une interaction entre deux molécules qui existent dans la nature. Ça, c'est déjà un sujet de recherche en soi pour essayer de les comprendre, comment elles se font et quel est le début d'un processus et quelle est sa fin. Donc ça, c'est une partie importante. Après, vous avez des signaux physico-chimiques qui déclenchent ces réactions et qui vont avoir après un impact. Et ça, c'est des choses qui interviennent beaucoup dans ce qu'on appelle maintenant l'écologie chimique. On essaye de comprendre l'effet du produit dans un organisme donné. Très généralement, on va chercher un produit, une substance naturelle, pour lui trouver une activité pharmacologique, pour qu'elle soit utile à l'homme. Mais ce n'est pas le seul intérêt, en fait. Et de plus en plus, maintenant, il y a des laboratoires dans le monde qui font du bio-inspiré en s'intéressant du rôle du produit dans la nature. Donc ça, c'est la partie signaux, interactions. Et puis, vous avez la partie contrôle des équilibres, pas seulement dans une réaction donnée, c'est-à-dire un processus biochimique, mais aussi dans un écosystème en entier, dans une cellule. Comment se fait-il qu'un produit existe à un niveau constitutif? Il ne va pas être produit à plus que ça, sauf à la demande. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit un peu. Et puis après, vous avez l'équilibre entre organes, parfois, de molécules, voire organismes, voire dans un écosystème, en général. Voilà. Alors, les enjeux pour la chimie organique, c'est d'observer la nature, donc, et d'essayer de fabriquer des molécules, des matériaux, petites ou grosses, pour un intérêt, pour l'homme. Ça, c'est un intérêt direct. Et puis, on essaye de le faire en imitant donc, des processus, des réactions enzymatiques qu'on transpose au laboratoire pour essayer de les valider ou parfois de les faire avec une certaine sélectivité qui est moindre que celle d'un enzyme. Mais on peut moduler les conditions pour arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus efficace que peut le faire un enzyme parce qu'on peut le faire en grande quantité et on peut l'avoir immédiatement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les milieux naturels sont contraints, en fait. On fait avec ce qu'on a. Le chimiste, il choisit. Ce n'est pas du tout la même chose. La nature, elle est obligée de piocher dans des choses qui sont là et les utiliser. Ça fait, sur le plan stratégique, une très, très grosse différence. Voilà, donc on va aller vers la synthèse de molécules. Donc, le chimiste organicien va se poser la question de la fonctionnalisation d'une molécule pour introduire une fonction quelque part, un hydroxyle, une amine, une réduction, une élimination. Donc ça, c'est une action principale. Mais vous avez parfois des réactions cascades. C'est-à-dire l'enzyme va déclencher une réaction d'une molécule qui est plus ou moins complexe, et la molécule, par sa préorganisation d'elle-même, elle va suivre un processus qui est thermodynamiquement favorable et qui va aboutir à un produit plus stable. Et ça, on peut dire pratiquement l'enzyme, une fois qu'il a déclenché le processus ou induit une certaine stéréochimie, eh bien la réaction se fait toute seule. C'est exactement ce genre de réaction que les chimistes organiciens, en général, cherchent pour essayer de les produire au laboratoire, parce qu'elles permettent l'accès, à partir d'un produit relativement simple, linéaire, à un produit extrêmement complexe, sans faire intervenir ni l'enzyme, ni le faire en plusieurs étapes. Ce qu'on appelle les réactions cascades. Donc, comment s'y prendre dans la nature pour avoir ce genre de raisonnement? Comme vous le savez, depuis le génome, qui évidemment contrôle la synthèse de métabolites primaires ou secondaires, en passant par un système enzymatique relativement complexe, le professeur Marc Fontecat vous a montré le système oxydatif et de réduction, mais voilà, il y en a d'autres pour la synthèse de molécules, des réactions itératives pour fabriquer des chaînes très longues. Et il y a en fait un lien direct entre le génome, ce qu'on appelle le métabolome, c'est-à-dire l'ensemble des métabolites, primaires ou secondaires, qui sont produites dans un organisme. Alors, la démarche inverse, c'est d'aller dans la nature chercher un organisme, une plante, un micro-organisme, une bactérie, et de le décortiquer pour essayer de comprendre, isoler les molécules, les caractériser, leur donner une structure, et puis se poser des questions de ce qui les caractérise encore plus, c'est-à-dire leur biosynthèse et leur fonction. Ça, c'est extrêmement important. On a la structure, mais quand on a la structure chimique d'une molécule, on n'a encore que la structure, en fait. Et donc, à partir de là, quand on a isolé les molécules de manière exhaustive et qu'on en a un maximum, on n'a jamais toutes les molécules qui sont faites, qu'on a un maximum, on va les utiliser dans un certain nombre de domaines qu'on va appeler la chimiotaxonomie pour lier les organismes entre eux, l'écologie chimique, C'est-à-dire la fonction du produit lui-même en l'observant dans l'organisme d'origine, une plante, une bactérie. Donc ça se fait aussi, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à ça. Donc comprendre la fonction du produit, à quoi il sert, ou alors son absence, qu'est-ce qu'elle induit comme déficience ou comme trouble. Voilà, ça on peut faire. Et donc, une fois qu'on a ces molécules-là et qu'on a déterminé les structures, je vous ai dit, un produit est défini par sa biosynthèse et sa fonction. Et donc, on va aller regarder, faire ce qu'on appelle de l'analyse biomécanistique. C'est-à-dire, on va grouper les molécules par famille, en les liant toujours par phylogénie à l'organisme producteur, parce que ça, c'est un fil conducteur qui est important. Généralement, on ne compare pas une molécule isolée d'une bactérie ou une isolée d'une plante qui n'a rien à voir. On aura du mal, même si les structures chimiquement peuvent être proches. La structure ne suffit pas pour comparer un produit. Il y a sa réactivité derrière, mais aussi il y a la phylogénie. Et donc, on fait ça. Une fois qu'on a réuni les molécules, on peut en dégager une certaine réactivité qui les lie entre elles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez isoler des produits A, B, C et D, voilà, jusqu'à X, Y, avec certaines qui manquent, molécules, qui sont liées entre elles par des réactivités chimiques et des transformations chimiques. Ces réactions chimiques sont visibles pour le chimiste, donc on peut les lire, et on va dire, pour passer de C à D, on a telle réaction qui se passe. Ça, c'est une information qui est importante. Et quand on réunit pour un certain nombre de structures et de formes chimiques un certain nombre de réactions, on finit par avoir une vue d'ensemble de ces molécules-là et de se poser des questions, des fois, sur celles qu'on ne connaît pas derrière et qui vont jusqu'à X, Y, et parfois, on réussit à les trouver. C'est un puzzle, c'est un aller-retour entre des études de réactivité au laboratoire et ce qui est connu dans la littérature, ce qui se fait, ce qu'on fait dans les recherches de produits naturels, et on arrive parfois à avoir des idées assez précises. C'est ça qu'on va utiliser en synthèse biomimétique pour essayer de reproduire au laboratoire. Je dis ça parce que la biosynthèse d'un produit qui est nouveau et qui peut être des fois au niveau valorisation très important pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour autre chose, on ne connaît pas du tout sa biosynthèse. On ne peut que postuler des hypothèses. On connaît la biosynthèse d'un certain nombre de métabolites secondaires, beaucoup pour les primaires, parce qu'ils sont importants, plus importants que les secondaires dans un premier temps pour comprendre déjà le fonctionnement de l'être vivant en soi. Ces réactivités-là, donc, qu'on ne connaît pas au niveau biosynthétique, on va les postuler, on va les suivre. Donc on va appeler ça, il y a un débat sur la synthèse biomimétique, on s'inspire de la biosynthèse qu'on ne connaît pas encore. Je voulais mettre le doigt sur ça, c'est extrêmement important. Vous allez voir, j'ai pris quelques exemples qui sont de très anciens exemples, juste pour vous illustrer ça. Si on prend la tropinone qui est là, qui est un dérivé de la cocaïne produit par une plante, donc extrêmement connue depuis début du siècle. Après l'isolement de la structure d'une molécule, qui est une molécule relativement simple finalement et petite, il y a Willstetter qui a fait sa synthèse organique pour la préparer au laboratoire, la faire d'une manière artificielle, et il a synthétisé à partir de ce cycle acète avec une fonction cétone en utilisant des réactions chimiques avec une certaine régiosélectivité, spécificité. Donc ça justifie toutes les étapes, je ne vais pas revenir sur les détails ici. Ce que je veux vous montrer, qu'on a un certain nombre d'étapes, une après une, en isolant les produits, il a réussi à faire le composé. Ça, c'est de la synthèse organique réfléchie par l'homme. C'est une très, très belle synthèse à cette époque-là, 1901. On n'avait pas encore toutes les méthodes physiques pour caractériser tous les produits et tout ça. Et quelques années après, 15 ou 16 ans après, vous avez Robinson qui décrit une synthèse biomimétique. On ne connaissait pas la synthèse de la tropinone à l'époque, ni de la cocaïne. Et il fait une réaction extrêmement moderne. Une réaction multicomposante, trois produits, c'est ce qui a fait les sujets de recherche très importants les 10 dernières années d'un certain nombre d'équipes dans le monde. Et en mélangeant ces trois produits, il passe par un intermédiaire qu'il n'isole pas, il chauffe dans l'acide et il obtient le produit qui est la tropinone. Une seule opération. Une seule opération parce qu'il s'est dit, il prend ce dialdéhyde qui a des chances d'être naturel, la méthylamine, et puis une sorte de céto-acide dont le fonctionnement au milieu naturel est extrêmement important, l'acétyl-CoA et tout ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et il a fait cette réaction, il a synthétisé le produit. Alors la réaction, elle est simple à mettre en œuvre, effectivement, elle aboutit à un produit qui est simple mais relativement complexe quand on veut faire la chimie organique de synthèse. C'est une réaction donc multicomposant. Il y a une extraordinaire optimisation dans le temps, il l'a fait en une seule fois, et il y a une économie d'énergie. Voilà. Donc, vous allez me dire, il suffit d'observer la nature quand on connaît les processus biologiques et pour aller reproduire les synthèses très facilement en chimie organique. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'investigation en fait derrière pour aller comprendre le processus biosynthétique, le vrai cette fois-ci, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Bon, là, j'avais mis le mécanisme, je crois que ce n'est pas très important ici, le mécanisme de la réaction, s'il y a des chimistes organiciens qui s'intéressent à ça ici. On passe, le plus important, s'il y a une sorte ici de pyrrolidine avec un minium qui est important dans ce système-là, et puis une réaction de Mannlicht, l'addition d'un cytoacide sur cet iminium-là qui permet d'obtenir une sorte de cage de complexe comme ça, un aminal ici qui élimine derrière pour passer un deuxième iminium-là, et vous avez la cyclisation. La dernière réaction est une réaction de décarboxylation. Quand on est dans un système cytoacide comme ça, elle est extrêmement simple. Donc voilà la réaction chimique. Et maintenant, quand on compare ça par rapport à la biosynthèse qui a été mise au point, alors là, des dizaines d'années après, donc les études, je vais vous montrer après une diapositive qui ont été montrées, ça part de l'aminoacide, ça ne se voit pas très bien ici, c'est une copie, voilà, en fait de l'arginine et de l'ornithine. Le plus important, c'est de prendre l'arginine ici ou l'ornithine, et on aboutit à cet équivalent du dialdéhyde que je vous montre là, avec la méthylamine qui peut s'ajouter dessus. Vous avez ce système ici à 4 carbones, vous avez l'aldéhyde avec l'amine et une cyclisation à la pyrrolidine qui est là. C'est ça qui est important en fait. Et après, on va se poser la question, est-ce que c'est une synthèse biomimétique ou pas? Je vais y revenir dans la diapositive suivante. Et donc la suite de ça, après, vous avez donc l'addition par l'acétyl-CoA d'une unité à 2 carbones sur un côté, qui vient exactement mimer ce qu'il a, seulement Robinson, il avait pris les deux en même temps, et ici, ils vont s'ajouter l'un après l'autre. Voilà, on fait la première addition, la deuxième, et après, vous avez la cyclisation, et on retombe sur le système de tout à l'heure pour faire la molécule de cette façon-là. Ce raisonnement que vous voyez là, c'est un raisonnement qui a été fait en 1901, juste par la réactivité de chimie organique, il n'y avait pas de biosynthèse à l'époque. Mais c'était quelqu'un qui avait ce souci de réfléchir à une possibilité de biosynthèse dans le milieu naturel, et avec les connaissances de cette époque-là, il a pu quand même dégager une synthèse qui était extrêmement proche, extrêmement efficace pour faire un produit comme ça. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est ce qu'on veut revendiquer pour la synthèse biomimétique et l'utilité, parfois, dans la synthèse d'un certain nombre de produits. Alors maintenant, il va se poser la question qui est légitime, est-ce que cette synthèse est biomimétique, puisque les réactifs ne sont pas les mêmes? Mais la réactivité est la même, le concept est le même. Et c'est ça qui est important. Et quand on va regarder un peu plus loin, vous allez voir dans la nature elle-même, elle n'utilise pas toujours exactement les mêmes composants, elle a toujours des voies, on appelle des voies chaintes de secours. Quand un produit manque, elle va en prendre un autre pour faire. Ce qui est important, c'est l'agencement des atomes et les fonctions et leur réactivité. Et c'est ça qu'il faut retenir dans la synthèse biomimétique. On va essayer de coller le plus possible à un processus biomimétique, mais on peut utiliser des produits qu'on va acheter dans un catalogue et qui sont disponibles et qui ne sont pas chers. Surtout que le chimiste, lui, il a la liberté que la nature n'a pas de choisir le réactif qu'il veut. Ça, c'est important. En fait, la nature, elle fait les choses dans des conditions beaucoup plus contraintes qu'on peut le faire, nous, au laboratoire. On va manquer d'efficacité parce qu'on n'a pas les enzymes, on n'a pas les systèmes qui vont contraindre une certaine réaction, mais on a quand même une liberté sur le choix des réactifs. Et alors, maintenant, je vous montre un article de 2012 qui vient de sortir. Ce n'est pas encore fini avec la biosynthèse de la tropinone et de la cocaïne. Il y a toujours des découvertes, et vous voyez ici une explication de la première étape de la biosynthèse de la cocaïne qui vient d'être publiée, et ça continue encore. Ça veut dire que les systèmes biosynthétiques, déjà, ils ne sont pas les mêmes dans tous les organismes, ils vont varier de l'un à l'autre, et chaque laboratoire va étudier son système, il va trouver des petites variantes sur des concepts qui sont proches ou relativement proches. Bon, on peut multiplier des exemples comme ça. Si je prends ici les stérols ou les stéroïdes en général, c'est un exemple qu'on cite beaucoup. On part du squalène pour faire des produits stéroïdiques ici. Je vous ai mis le schéma ici, là, et qui a été proposé par Eschen Moser la première fois. Et il y a eu un certain nombre de réactions utilisées par des chimistes comme Coré, Baran et bien d'autres ici, qui ont fait diverses molécules qui sont naturelles et qui ont des intérêts. Alors, il y en a un certain nombre qui sont des hormones ou des activités biologiques intéressantes. Et donc, la synthèse, la biosynthèse, elle est extrêmement connue. Là, on est dans un autre exemple. Ça, c'est, on est dans le métabolisme extrêmement connu des terpènes à partir de l'isoprène, donc le squalène, et puis la synthèse de l'anostérol. Donc, c'est facile de faire les liens qu'avec des molécules qu'on ne connaît pas du tout. On a même trouvé un exemple, et ça, c'est Hitchcock qui avait publié ça. À partir du squalène, on peut faire des molécules de plantes isolées de Daphnophyllum qui ont des structures extrêmement complexes. Et je vais juste vous montrer un petit exemple ici. À partir du squalène, vous avez l'oxydation de ces deux méthyles en aldéhyde. Si vous ajoutez une amine ici, ça vous crée un système qui réagit avec lui-même pour créer cette structure-là. Je ne vais pas tarder dessus, mais si vous pliez cette partie-là sur celle-là, vous pouvez faire cette structure. Et après, vous avez une insertion de l'amine. Ici, vous faites une sorte de diène, d'azadiène, qui s'ajoute sur une de ces deux doublaisons, celle-là ou celle-là. Et vous avez un système complexe. Et là, vous avez après un certain nombre de molécules qui ont été faites un peu de cette façon-là, qui sont des molécules naturelles. Si vous empruntez les voies classiques de synthèse organique en découpant liaison par liaison et en essayant de bricoler pour les faire, on peut y rester un certain temps. En prenant ça, et Hitchcock y a réfléchi le premier, il a pu faire la synthèse, par exemple, quand on prend un système comme ça, il a pu faire la synthèse de produits de ce type en utilisant la même cascade. On trouve souvent la réaction de Manisch, les aldolisations, transformation d'incétone en iminium qui sont extrêmement réactifs, et puis l'addition d'une position carbonée alpha d'une cétone dans les systèmes naturels. C'est très, très courant. Et ce que Hitchcock avait fait exactement, alors là, maintenant, il a fait la synthèse de ce produit-là d'une façon qui n'a rien à voir avec la biosynthèse, mais il voulait prouver que quand on a deux aldéhydes avec un système comme ça, donc il a déjà introduit le cycle A5, on a effectivement, en mettant de l'ammoniac ou une méthylamine, la transformation en ce polycycle, qui est un polycycle ici, après l'aménagement fonctionnel ici, un polycycle naturel. Voilà. Et ça, pour les Daphnophyllum, par exemple, il n'y avait absolument aucun antécédent de biosynthèse. On s'inspire de ce qui existe sur les stérols et les stéroïdes. Il utilisait le squalène parce qu'il a compté le nombre de carbone et il a regardé la réactivité dans le cœur polycyclique ici. Et ça lui a permis de faire une synthèse comme ça, relativement facile. Bon, on peut multiplier les exemples. Là, je vous montre un exemple d'un produit marin rapidement. La nature, elle sait très bien faire des choses linéaires comme ça. Ce sont des réactions par des modules génétiques. Ils viennent ajouter un module à 2 ou 3 carbones, des fois plus, voire un aminoacide. Et elle peut réitérer les réactions ou faire beaucoup comme les protéines ou les acides nucléiques. C'est un peu les mêmes processus. Et elle peut faire des réactions comme ça. Seulement après, dans le système enzymatique, en présence d'une certaine stéréochimie naturelle, la molécule comme ça, elle ne reste pas linéaire, elle se préorganise elle-même. Parce qu'en intramoléculaire, intrinsèquement, il y a un certain nombre d'interactions qui font que la molécule elle préfère être dans une forme. Voilà, et elle adopte une forme de ce type-là qui va amener, maintenant je l'ai expliqué un peu ici plus, ces 3 hydroxyles en face d'une cétone alpha-bêta et qui va tout simplement, par une réaction thermodynamiquement favorisée, vous faire un produit. Cette partie-là du produit, de la lichondrine, je n'ai pas mis toute la molécule qui est là. Cette partie qui est une des parties la plus complexes du produit. Et ça, c'est ce que Kishi a suivi pour faire la synthèse de ce produit-là, qui est fait entièrement par synthèse organique. Et c'est un médicament anticancéreux qui a démarré l'année dernière. Donc, le chimiste organicien s'est rendu compte qu'il ne peut pas fabriquer tout ça, qui est le produit actif d'origine. Il en a sélectionné une partie qui a gardé l'activité, parce que quand on fait de la synthèse, on prend les intermédiaires plus ou moins évolués, on les teste sur les mêmes cibles biologiques pour voir s'il n'y a pas la même activité. Par chance, ce produit avait la même activité, il a été commercialisé, et il est commercialisé maintenant. Bon, ça, c'était pour vous donner donc, le background, avant de revenir un petit peu sur ce qu'on fait au laboratoire nous-mêmes. Je vous ai choisi un exemple d'une réaction qu'on a découverte et qui nous intéresse actuellement. Alors, en général, quand on fait la recherche dans l'extraction de produits naturels et l'identification des structures, il faut être vigilant un peu à tout ce qui est possible d'exploiter d'un produit naturel. Et ça, il suffit de planifier l'expérience au départ, comme je vous l'avais dit, sélectionner les organismes sur lesquels on travaille pour qu'il y ait un lien de phylogénie, chercher les produits où il y a le plus de diversité moléculaire, et puis essayer de tester un certain nombre d'hypothèses qu'on émet pour un produit. Et donc, on peut aller, en faisant la recherche de nouvelles structures, à la réactivité, comme je viens de vous le montrer, des nouvelles méthodes de synthèse, par exemple, on peut accéder à des structures extrêmement complexes d'une manière relativement facile. On peut faire de l'écologie chimique. Je vous ai dit, les marqueurs chimiotaxonomiques qui permettent de dire la présence d'un produit témoigne de la phylogénie ou du lien d'héritage d'un organisme avec un autre. On peut trouver des molécules de dialogue entre les organismes marins, par exemple, ou des plantes. Ça, c'est extrêmement important. Un organisme communique avec un autre avec des molécules. Les phéromones, par exemple, insectes et fleurs, c'est un exemple le plus flagrant quand on regarde. Voilà. Et puis, on a des indicateurs de biodiversité. Bon, ça permet des fois de suivre l'état des écosystèmes et de la santé des organismes en suivant, comme les analyses chimiques ou biochimiques chez l'homme, la présence ou l'absence ou l'abondance d'un produit qui signifie une pathologie ou un mal-être ou un bien-être. Voilà. Et puis, après, vous avez tout ce qui a motivé le plus, finalement, la recherche de produits naturels, c'est le bioguidage et la recherche de molécules qui ont une activité biologique pour l'exploiter dans l'industrie pharmaceutique. Parce que généralement, c'est là qu'il y a le plus de moyens financiers et c'est là qu'il y a le plus de chercheurs financés pour travailler. Et ça, les dernières 20 années, ça a un peu biaisé les recherches sur les produits naturels parce qu'on a surtout focalisé vers ce genre de recherche. Et ça a laissé peu de place, en fait, à la découverte inattendue, à l'application inattendue. Ça, c'est toujours un peu double tranchant. Une liberté d'un chimiste, lui, laisser, ou un chercheur en général, hein, un peu, l'espace de chercher sans avoir une raison particulière pour essayer de faire juste l'investigation pour comprendre, ça peut être utile. On ne fait pas que ça, mais il faut faire un peu de ça aussi. Voilà, alors nous, on s'intéresse donc aux éponges marines. Comme vous pouvez le voir, là, je vous ai montré ce camembert là. Les éponges représentent dans le milieu marin la biodiversité, une biodiversité très très importante. Et les structures moléculaires qui ont été isolées les dernières 30 années, elles sont pour une très grande partie dans les éponges. Et en fait, on explique un peu pourquoi, parce que les éponges sont associées à des micro-organismes. On dit qu'entre 20 et 50% de leur poids sont des micro-organismes, bactéries, des parasites micro-organismiques comme les algues, par exemple, les micro-algues. Et la richesse des éponges en produits divers est aussi liée à ça, à cette communication avec les micro-organismes qui est productrice de métabolites, finalement. Mais pas seulement, en fait, parce que les éponges sont aussi des organismes à la frontière de l'unicellulaire, protozoaire et métazoaire, et du pluricellulaire. Donc on présume qu'il y a une signalisation entre les cellules des différentes parties de l'éponge qui est assez importante, et donc il y a beaucoup de métabolites. Alors, la partie extractive, quand on s'intéresse, donc nous, on s'intéresse au milieu marin, On va chercher les éponges et après on va tomber sur des molécules avec des structures variées, souvent très très originales. Nous on s'intéressait beaucoup à cette molécule-là. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais voilà. Mais on en a trouvé d'autres qui sont extrêmement importantes. Je voudrais parler de celle-là et d'un équivalent qu'on a isolé, qui a un peu la même réactivité et qui engendre énormément de questions finalement sur les propriétés de cette molécule. Cette molécule-là, la sélanthérazine, est une molécule luminescente. Elle fixe l'oxygène dans l'organisme et il y a une réaction qui se fait, qui libère des photons et vous avez une luminescence. Et cette luminescence est utilisée par les organismes marins pour séduire, pour effrayer, pour communiquer, pour se faire voir. C'est une évolution de l'utilisation d'oxygène, j'y reviendrai un peu plus tard. Et nous avons découvert une dicitopiperazine qui fait une réaction très proche de celle-là. Et je voudrais vous en parler un petit peu comme exemple de recherche biomimétique. Donc les éponges, on va les chercher dans différents endroits. En France, on a beaucoup de territoires. Et l'Institut de recherche pour le développement, le CNRS, et puis nos universités, on a des contacts de collaboration et on peut aller collecter et travailler ensemble sur des systèmes d'organismes marins assez originaux. Et on est assez gâtés de ce côté-là. Donc la première partie est de récolter les éponges, lyophiliser une partie, faire des échantillons et partir vers des tests biologiques et des analyses par HPLC du contenu de chaque éponge. Et on dresse un profil chromatographique ici qu'on va finir par renseigner par des molécules. Vous avez les pics que vous voyez là, ce sont des molécules, mais on ne voit qu'une partie en fait de l'iceberg. En dessous, vous avez des produits minoritaires et vous en avez par probablement milliers, et nous, on n'a jamais réussi à avoir tout. On voit les majoritaires, et quand on est courageux, on va chercher quelques minoritaires, et après, on est limité par les moyens physiques et les moyens d'analyse, finalement. Et voilà, on s'arrête là. Il arrive des fois qu'on revient sur un organisme quelques années plus tard parce qu'il y a une méthode nouvelle qui permet d'analyser quelques microgrammes qu'on n'avait pas avant. Voilà, donc on opère notre sélection. Je vous ai dit tout à l'heure, la phylogénie est importante pour nous et on fait l'isolement et la caractérisation et après, on va tomber sur des produits avec des structures de toutes sortes, en fait. Vous avez une famille de produits auxquels on s'intéresse. Vous allez juste localiser un pyrrole ici, un 2-aminoimidazole ici. Ça, c'est important pour nous. Mais il y a aussi d'autres molécules qui peuvent être... Vous avez ici un mixte, un polycétide ici avec une partie peptidique, très intéressant comme produit cytotoxique. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure des stéroïdes. Il y en a un peu partout dans tous les organismes, on les trouve là. Des dérivés d'aminoacides plus ou moins compliqués, des bétaïnes comme ça, qui peuvent probablement servir à l'équilibre osmotique, et puis des molécules qui nous intéressent par ailleurs, j'y reviendrai plus tard. Et des fois, des familles de molécules étranges, vraiment complètement nouvelles. Vous avez ici une succession de sucres avec un inositol et deux chaînes, et on en a trouvé comme ça, une trentaine, ensemble, dans un mélange, et ils varient uniquement par les longueurs de chaînes ici. Alors voilà, on est en tout début, on a la structure. On ne sait absolument rien, ni sur la biosynthèse du produit, ni sur sa fonction, ni absolument rien. C'est le premier contact avec une molécule, on fait la structure, on regarde s'il y a une activité biologique sur les tests qu'on peut faire au laboratoire, et puis après, si on ne trouve pas nous-mêmes, et ben on teste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt biologique pour ça. Après, donc, on va se focaliser maintenant sur une famille de produits. Je vous ai dit, on s'intéresse aux produits qui ont un pyrrole et un imidazole avec trois carbones ici depuis 2001. Ça fait quand même un certain temps maintenant déjà. Et donc, on s'est focalisé sur des familles d'éponges ici particulières dans lesquelles on trouve ces produits-là. Elles sont productrices. Et chaque éponge va produire des dérivés différents. Ils font pas toutes la même chose. Elles sont de la même famille et elles sont différentes par ça. Chaque espèce va produire peut-être en commun un ou deux, mais peut-être pas du tout. Et on les réunit, on les regarde, et on a toute une librairie de molécules, plus d'une centaine maintenant au laboratoire de ces molécules-là qu'on a isolées de ces familles-là. Et ça nous permet d'abord d'étudier nous-mêmes leurs propriétés, de les observer, comment elles se comportent, mais aussi de regarder par rapport à la littérature la réactivité moléculaire du pyrrole et de l'imidazole et d'en tirer des renseignements. Donc une fois qu'on a fait ça, par exemple, pour une éponge, je vous ai dit, on retourne vers le profil chromatographique, on va le renseigner. Et ça, on le met dans une base de données. Et on, si on en a besoin une autre fois pour voir de telle éponge qui est liée avec une autre, qu'est-ce qui avait été trouvé, on peut retrouver ça assez facilement avec les produits majoritaires qui sont renseignés. Je vous ai dit que les minoritaires, très souvent, on n'y arrive pas. On commence à s'y intéresser, mais c'est quand même relativement compliqué. Donc, on a trouvé des molécules complexes comme ça, comme vous pouvez les voir ici, là. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais on voit qu'ils ont une certaine structure. Pour un synthétiste organicien, c'est quand même relativement compliqué. Il y a beaucoup de carbones asymétriques, c'est très polaire. Ce sont des structures polycycliques imbriquées les unes dans les autres. C'est, voilà. Alors, quand on voit une structure, par exemple, comme ça, on peut se douter que la nature, elle n'a pas bricolé atome par atome pour construire. Il y a eu une structure d'origine au départ, qui a évolué dans une réaction cascade pour aller vers ça. C'est pratiquement une certitude sur le plan conceptuel. Et on a isolé d'autres molécules qui sont beaucoup plus simples maintenant, qui peuvent être des produits de dégradation, ce genre de molécules, par exemple. Voilà, juste une partie de ça. Ça, on considère ces deux molécules-là, la gélin, le dispacamide et l'oroïdine, comme produits, phares de cette famille. Et on en a eu d'autres. Alors, vous voyez ici, vous avez une pyridine, par exemple. Vous comptez le nombre de carbone et d'azote, c'est exactement le nombre, ici, là, que le 2-aminoimidazole. Deux noyaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais finalement, en termes de réactivité moléculaire, ils sont extrêmement proches. Vous ramenez cet azote, vous le faites réagir ici, vous ouvrez la guanidine de l'autre côté, et vous avez la molécule. Donc, quand on la regarde, structurellement, elle est différente, mais au niveau réactivité, c'est la molécule de la même famille. Et c'est comme ça qu'il faut les voir. Et donc, on a regardé cet ensemble de molécules. Il y a certaines, au départ, on n'avait absolument pas compris comment ça peut arriver là. Bon, ce n'est pas la première fois. Quand on isole un produit, on ne comprend pas forcément sa biosynthèse. Mais on peut se poser des questions. Ah, ben, il peut provenir de cette molécule-là, ou on peut, des fois, supputer une origine. Et dans certains cas, c'est quand même relativement obscur. Et on n'y arrive pas. Et ici, vous avez un produit, par exemple, qui peut dériver d'une arginine par désamination, décarboxylation, mais aussi il y a d'autres voies de biosynthèse qui peuvent aller à ce produit-là. La nature est diverse et les voies de biosynthèse sont diverses. Voilà, on peut imaginer des choses, mais on ne peut pas aller jusqu'à... Voilà. Et maintenant, je vais revenir sur la biomécanistique. Donc, on s'est intéressé à cette problématique des produits. D'abord, l'origine de ces deux produits-là à partir des aminoacides auxquels on a pensé, mais il y a d'autres qui y ont pensé aussi, et 5-6 laboratoires qui ont proposé des choses à partir de ces aminoacides, l'ornithine, proline, arginine et lysine, les produits intermédiaires et puis les produits extrêmement complexes. Et je voudrais juste vous montrer un exemple qui nous a permis de trouver une réactivité. Je crois que ça suffira pour illustrer un petit peu la synthèse biomimétique. Pour trouver une réactivité, et ça nous a mis sur une voie qui est pour nous totalement inattendue, mais extrêmement intéressante. On voulait fabriquer ce produit-là, qui est polycyclique, qui est un antibiotique, la dibromofaquiline qui est là. Et on s'est dit, c'est un produit très proche de celui-ci, ça c'est le raisonnement en liant les molécules les unes entre les autres. On peut regarder que si on cyclise cet azote avec celui-là, c'est-à-dire cet azote-là et cet azote, sur le 2-aminoimidazole ici, là, on a cette molécule-là. On va juste la replier. Et on l'a là. Et donc, on avait imaginé au départ un schéma de synthèse partant pyrrole-proline, parce qu'on a pensé que la proline y est pour quelque chose, y compris pour cette partie-là, au niveau biosynthétique. Et si on y ajoute une guanidine comme ça, on devrait pouvoir aller, par une cyclisation ici, obtenir cet animal, élimination ici, et puis obtenir cette sorte de dicitopiperazine avec une guanidine. Et si on a ce système qui est ici, imine et namine, on peut aller à l'iminium et puis cycliser en intramoléculaire, aller vers là. Ça, c'est une possibilité. Donc, il suffit de fabriquer ce produit-là. Et la deuxième, c'est uniquement de substituer ici, d'ouvrir là, par cette guanidine, les flèches rouges, pour aller vers ce produit-là, qui va manquer juste d'une oxydation ici pour aller vers le dispacamide. Ça, c'est un raisonnement purement chimique. Juste en liant les deux molécules, en se disant qu'elles ont un lien, et on va essayer de les faire à partir d'un même produit. Et on pensait que le pyrrole et la proline, au niveau biosynthétique, avaient quelque chose à voir dans cette voie de biosynthèse. Et en fait, on le pensait parce qu'on avait aussi isolé ces produits-là, qui sont des dicitopiperazines d'arginine, dans celui-ci, qui est là, qui est un produit qui va vers le pyrrole ici, et vous avez une guanidine. Donc on s'était dit, Une réaction de ce type, telle que je viens de vous montrer ici, vous avez une proline en fait, en intramoléculaire, on pourrait imaginer une réaction très similaire, ouverture sur cette partie-là, avec une constitution du 2-aminohumidazolone, avec un transfert intramoléculaire de la guanidine. Ça, c'est des produits que nous avons isolés d'une éponge de Méditerranée en même temps. Ils nous ont mis sur la voie, donc ils sont tous en C11 et N5, hein, comme je vous ai dit. Et on a fait la réaction. Alors en fait, ce qu'on a fait, je vais revenir sur la diapositive d'avant. L'accès à cette molécule-là, le plus simple, c'est de synthétiser une décitopyrazine, une partie pyrolique et une partie proline, ajouter la guanidine. Et on sait que la réactivité du pyrrole, c'est un très bon groupement partant aromatique. On ouvre de ce côté-là et on va vers une molécule comme ça. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et donc, on a fabriqué ce produit que vous voyez ici, une décitopyrazine très facile, deux étapes de synthèse. Voilà, je ne reviens pas dessus. On a ajouté en intermoléculaire la guanidine ici. On s'attendait à ce produit-là, c'est-à-dire juste l'addition de la guanidine sur cette partie-là, ouverture ici, et vous avez quelque chose ouvert ici, déplié, plus ça, sans la double liaison qui est ici, la double liaison du dispacamide que vous voyez là. Et finalement, en faisant la réaction avec l'oxygène de l'air ambiant, on est tombé sur le produit oxydé, c'est-à-dire le produit avec le bon degré d'oxydation que le produit naturel. Et nous avons isolé un deuxième produit très minoritaire d'un produit qui est décarboxylé ici, là. Et c'est là que nous avons commencé à nous poser des questions, d'abord sur cette oxydation qui arrive et qu'on n'avait pas prévu du tout, et deuxièmement sur la décarboxylation qui est là, et en comparant avec les produits qu'on avait isolés. Et ça, c'est des produits naturels aussi que nous avons isolés au laboratoire, mais que d'autres ont isolés. C'est des produits qui étaient connus. Et nous avons arrêté un peu nos recherches pour nous intéresser au mécanisme de la réaction. Et finalement, nous avons compris ce qui s'est passé. La décitopyrazine est extrêmement sensible. Quand il y a un pyrrole ici, quand il y a une proline aussi, elle n'est pas réactive. Quand vous avez un pyrrole, vous avez une fixation d'oxygène triplé. Nous avons étudié le mécanisme après. C'est dans le noir, il n'y a pas d'excitation aucune. L'oxygène triplé s'ajoute là-dessus, ça fait un peroxyde. Le peroxyde cyclise, on dit oxytanone, comme ici, là. Et l'addition d'une guanidine là-dessus, sur ce système-là, va donner... Donc, on l'a modifié un peu après ce système-là, si on fait l'hydroxy qui est là. Ça permet d'aller vers le produit. Et le produit, il cyclise comme on l'avait prévu pour donner ce produit-là. En regardant un peu plus, en fait, le système, donc ça, c'était la comparaison par rapport... Je vais passer là-dessus, parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Je vais aller à la comparaison directe. En regardant le système ici, en bas, là, que nous venons de décrire, vous avez la formation de cette dioxytanone qui est là, avec une décarboxylation pour donner le produit que nous avons isolé avec une très petite quantité. Et en fait, quand on ne met pas de guanidine, on met une autre base, que la guanidine, une base qui n'est pas nucléophile. Nous n'avons pas d'addition de guanidine sur ces espèces-là, et on va à des rendements qui sont plus importants de ce produit de décarboxylation. Et en fait, cette dioxytanone, quand vous faites les recherches sur les dioxytanones de la littérature, vous découvrez le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, marin, qui est la célantérazine, qui a un système comme ça, imidazolone, comme vous pouvez le voir là. Et c'est un système qui fonctionne avec une enzyme, la luciférase, qui lui fixe l'oxygène. Il passe par un système dioxytanone rouge, ici, comme vous le voyez là, qui décarboxyle et qui émet la lumière. Et c'est l'origine de la bioluminescence dans la nature. C'est une bioluminescence qui est amplifiée par le système enzymatique qui est autour du produit. Et donc, vous pouvez le voir à l'œil nu quand la lumière est dans le visible. La lumière émise, elle peut être pas visible pour l'homme, mais pour certains organismes, elle est visible. Et dans ce cas-là, elle l'est. Voilà. Donc la comparaison, elle est flagrante. Le système nous a intéressés beaucoup et on s'est dit, on va regarder la chimie luminescence de notre produit. Parce que notre produit n'est pas connu comme substrat d'enzyme, en fait. Mais nous, on va s'intéresser d'abord aux effets, physico-chimiques du produit. On a appliqué la réaction, maintenant, on l'avait fait sur la proline par rapport au pyrrole, à tous les aminoacides, et ça marche sur tous les aminoacides. Et ça permet finalement de mettre un aminoacide avec un pyrrole, de l'oxyder, vous avez la dioxytanone, et la dioxytanone, elle décarboxyle pour donner ce genre de produit, et après vous avez une hydrolyse qui va vers cet amide pyrrolique qui est là, avec un aminoacide qui va être maintenant désaminé et décarboxylé en une seule réaction. C'est une réaction extrêmement importante. Au niveau de la synthèse organique, ça n'a aucune, je dirais pour l'instant, aucun intérêt, parce qu'on dégrade un produit. Mais sur le plan fonctionnel, au niveau écologie chimique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si ça a une vérité dans la nature, en fait. Mais c'est tout ça qui reste à prouver. Et voilà. Et quand, en fait, on regarde les produits qu'on avait isolés, quand vous regardez ces systèmes-là, ce sont tous des systèmes qui sont générés par cette réaction, en tout cas, qui s'expliquent par cette réaction et qui permettent l'explication de la désamination, des carboxylations de l'aminoacide. Donc ça, sur le plan chimique. Sur le plan chimiluminescence, nous avons fait la réaction, nous nous sommes mis en relation avec Serge Mazère à Toulouse, qui a des systèmes de mesure de longueur d'onde à des faibles émissions de lumière, parce que les émissions de lumière ici, les rendements sont relativement faibles, et il faut les mesurer par des appareils assez sophistiqués. Et on a fait un certain nombre d'aminoacides, et on est allé chez Serge Mazère, et effectivement, notre réaction, elle est luminescente, et la luminescence, la longueur d'onde, le maximum, va dépendre de la nature de l'aminoacide qu'on va mettre ici. Et les produits qu'on va obtenir, ce sont des produits de désamination et de décarboxylation d'aminoacides. Et on a selon la longueur d'onde, on est dans des couleurs différentes. Alors, à ce stade-là, en fait, quelle interprétation pouvons-nous faire de ça avec une étude de réactivité chimique, isolement de produits qui se retrouvent dans la même famille de molécules, une réaction qui est similaire à un produit marin, ce sont les éléments qu'on a, on n'a pas plus que ça. Donc, pour prouver ce genre de choses, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, il faut, déjà prouver la biosynthèse qu'elle est faite à partir de ces aminoacides qu'on stipule ici. Nous avons commencé à le faire dans un laboratoire à Monaco, parce qu'il faut de la radioactivité au milieu marin, dans des aquariums, sur des éponges, qu'il faut acclimater, ça demande un peu de temps. Mais notre espoir, c'est de découvrir un micro-organisme qui fait les mêmes choses là et de l'utiliser au laboratoire de manière un peu plus simple pour étudier plus facilement la biosynthèse de ces produits-là et de voir si ça a un sens au niveau naturel ou pas. Donc ça, voilà. Et en même temps, pour l'exploitation et la valorisation, nous essayons de faire des molécules maintenant luminescentes, mais qui n'ont rien à voir avec les produits naturels que nous avons isolés. Mais on va essayer d'ajouter des chromophores pour exacerber un peu la luminescence, parce qu'ils peuvent avoir une application dans des systèmes de détection par bioluminescence dans les systèmes biologiques. Donc ça, c'est... Donc voilà une réaction, en fait, au départ, qui était faite juste pour une synthèse organique, et on découvre finalement que c'est une réaction qui peut avoir deux voies. Une première voie de décarboxylation, luminescence. Donc là, on découvre quelque chose qui est vraiment nouveau pour les aminoacides. C'est une catalyse d'oxydation par l'oxygène triplé de l'air assistée par le pyrrole. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Et l'addition d'une guanidine sur une proline avec une réaction cascade qui permet d'obtenir un produit naturel. Et tout ça dans les mêmes... Et les dérivés de ça ouverts ici, nous les avons isolés également des éponges. Voilà, donc ça, voilà la comparaison avec le système qu'on a découvert, le système naturel qui est connu, et les produits qu'on a isolés pour l'instant, ce sont les éléments qu'on a, et sur lesquels on va essayer de s'appuyer pour continuer à évoluer dans cette voie-là. Je vous ai mis quelques images de bioluminescence du milieu marin, on avait dans les coraux par exemple, dans les poissons. Les poissons peuvent s'associer avec des micro-organismes. Il y a une communication entre les micro-organismes, bactéries et les poissons, et ils les font illuminer à la demande, et c'est des systèmes extraordinaires. Il y a aussi... pour les décitopiperazines, par exemple, dont je vous ai parlé, on commence maintenant à répertorier les décitopiperazines comme molécules de dialogue et dans les systèmes bioluminescents. Alors, on ne sait pas exactement quel rôle, en tout cas un rôle de régulation, mais pas encore de rôle vraiment de luminescence. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est attentif, on va regarder. Et comme je vous l'ai dit, on s'intéresse aux micro-organismes qui sont isolés d'éponges pour voir si on ne peut pas en trouver et les utiliser au laboratoire pour étudier le système. Voilà. Et on a découvert également que cette même réaction, on peut l'utiliser finalement pour faire d'autres produits naturels qui n'ont rien à voir avec les nôtres et qui existent, qui sont dans la nature en fait. Et on a synthétisé ces squelettes-là, par exemple, que vous voyez, et qui sont des produits naturels. Et en fait, la luminescence, et je vais en terminer dans 2-3 minutes, la luminescence, elle a été découverte au départ par une recherche voulue sur le ver luisant. Et c'est un système qui est comparable, qui n'est pas le même, mais c'est un hétérocycle avec une cystéine, mais c'est aussi une dioxyéthanol, la même chose. Et en fait, McElroy, donc, qui s'est intéressé à ça, il a voulu savoir ce que c'est. Donc il est allé chercher la partie luminescente du ver luisant. Vous voyez la quantité qui a été ramassée pour aller à la structure. Il a séparé l'abdomen donc dans les airlines et le reste à côté. Et ils ont extrait, et c'est comme ça qu'ils ont eu la molécule finalement. Ils ont compris la réactivité derrière et ils ont découvert la luminescence. C'est pour vous dire, des fois, la réactivité moléculaire par la chimie organique peut aider. Tout est un ensemble, en fait. Il faut isoler, il faut regarder au niveau génétique les modules génétiques qui donnent des informations absolument précieuses sur les enchaînements moléculaires de petites molécules, mais aussi la réactivité derrière, parce qu'une molécule, une fois qu'elle est synthétisée dans la nature, elle peut faire des choses que les enzymes ne contrôlent plus, donc on ne peut pas avoir accès à ça par l'information génétique. On ne peut avoir accès que par la réactivité moléculaire. Ça, c'est un élément qui est aussi important. Voilà, alors, juste une dernière image, après je pense que ça va être bon. En fait, cette histoire de luminescence, elle est extraordinaire. Ces molécules-là sont des molécules de dialogue, mais avec, à une vitesse extraordinaire. Là, ce sont des micro-organismes, généralement, qui font ce genre de lumière. Quand il y a un mouvement physique dans l'eau, par exemple, dans la mer, vous touchez l'eau et vous avez une bioluminescence qui se transmet d'un micro-organisme à un autre, une information, et vous avez la bioluminescence, même les organismes qui n'ont pas été touchés plus loin, et avec une vitesse qui est inférieure à la milliseconde. C'est extraordinaire, la propagation et le pouvoir de communication entre les micro-organismes. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment à explorer, à savoir comment ça marche. Bon, là, j'ai mis quelques images, je vais passer dessus. Voilà, je voulais juste citer sur les réactions que je vous ai montrées, Jérôme Appenzeller, Ludmila Ermolenko et Clarisse qui ont étudié ça. Et je voudrais vous remercier pour votre attention et remercier encore une fois le professeur Marc Fontecoeur pour l'invitation ici.